On installe nos micros cette semaine à la Cinémathèque française pour parler du maître James Cameron et on se parle de Challenger, ce nouveau film de Luca Guadagnino avec Zendaya, séance tenante saison 3, épisode 17. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. L'équipe au complet, bonjour.
Bonjour Alexis.
Bonjour Gaël.
Salut Alexis.
Qui est déjà en train de se marrer.
Bah oui, toujours.
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 Et bonjour Lisa.
Salut Alexis.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Gaël et Lisa, depuis trois quarts d'heure, essaient de deviner le nom d'un film espagnol qu'ils n'arrivent pas à retrouver ensemble.
Tu, on a encore jusqu'à minuit pour le deviner.
Des gens,
et ben, voilà. Tu as un micro qui est branché, qui est ouvert.
Voilà, donc si pas vous avez la réponse, on cherche un thriller espagnol d'horreur, hein, c'est ça?
Oui, sorti en 2023.
Et qui
en espagnol et en anglais.
En espagnol et en anglais.
Produit aux États-Unis. Interdit au mois de 16 ans.
Voilà.
Donc... Et avec Sandra Bullock.
Non, pas du tout.
Alors, je préfère en parler en intro, comme ça le sujet est clos, parce que ça fait trois quarts d'heure qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Donc, je me dis qu'au moins c'est expédié dès le début. Dans cet épisode, donc, James Cameron est à l'honneur. Alors, malheureusement, James Cameron ne sera pas autour des micros de Séance Tenante, mais nous allons avoir le commissaire d'expo de sa nouvelle exposition, L'Art de James Cameron, à la Cinémathèque, où nous allons poser nos micros. On va partir sur place à la rencontre du commissaire de l'exposition Mathieu Orléans pour nous parler de cette grande exposition qui vient tout juste d'ouvrir à la Cinémathèque française à Paris. Et nous allons aussi parler de Challengers, le nouveau film donc de Luca Guadagnino avec entre autres Zendaya, Mike Fest, n'est-ce pas Lisa?
Tout à fait.
Un avis sur Mike Fest en deux mots?
On adore.
On adore, ces deux mots, ça marche. Et Josh O'Connor.
Un avis, Alexis, sur Josh O'Connor?
On aime beaucoup, en trois mots. Ouais. Voici le programme de l'épisode de la semaine. On commence peut-être par un petit tour d'actu. Alors d'actu, pas forcément d'actu très chaude, mais on avait envie de reparler de ça parce qu'on a vu passer une citation il n'y a pas très longtemps, justement de James Cameron sur Denis Villeneuve, que je vous reciterai tout à l'heure, sur l'avenir de Denis Villeneuve. Je m'en mêle entre les grands réalisateurs. De Denis Villeneuve au cinéma, il y a plusieurs projets en cours qui sont annoncés.
Alors, on connaissait effectivement au moins trois projets plus ou moins officiels et annoncés. On va y revenir dessus. Rapidement, en tout cas, un deal a été signé avec Legendary, donc le studio qui est derrière Dune, et avec Denis Villeneuve, pour qu'il adapte évidemment déjà le Messie de Dune. Donc c'est plus ou moins confirmé officiellement par l'article qui est sorti par Deadline aux US.
Pour donc conclure sa trilogie Dune.
Sa trilogie polatride en tout cas.
Et parce sans doute. Il y a beaucoup plus de livres, hein. En tout cas, il y a six livres écrits par Frank Herbert.
C'est ça. Et après, il y a les fils de Frank Herbert qui ont pris le relais. Mais en tout cas, Denis Villeneuve, lui, veut s'arrêter au bout du troisième film, qui est donc le deuxième livre, Le Messie de Dune. Et à côté de ça, il a été aussi annoncé que Legendary avait obtenu les droits d'adaptation cinématographique du livre, alors qui n'est pas un livre de fiction, mais plus un livre d'anticipation composé d'interviews, d'analyses, de reportages, d'avis, exactement, qui s'appelle Nuclear War Scenario, donc un livre sur les conséquences d'une guerre nucléaire qui pourrait arriver à un moment donné et de comment l'humanité pourrait y répondre et y faire face. Et
encore donc, un feel good de movie.
Exactement.
Après, d'une deuxième partie.
Voilà, donc est-ce que ça fait aussi forcément penser à Oppenheimer et je pense que le lien entre Denis Villeneuve et Christopher Nolan a souvent été fait. Et donc, ce livre qui a été obtenu par le studio, les droits d'adaptation, Denis Villeneuve devrait également le réaliser après Le Messie de Dune. À côté de ça, on savait qu'il avait un projet Cléopâtre, avec potentiellement Zendaya voilà, dans le rôle titre, et un autre film de science-fiction qui s'appelle Rendez-vous chez Mara, si je ne me trompe pas au niveau du titre. Pareil, qui va également aller dans le genre de la science-fiction pour Denis Villeneuve, qui semble bien apprécier l'exercice. Et,
Rendez-vous chez Mara ? C'est pas Rendez-vous with Rama ? Non, je dis ça parce qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, mais je sais pas si c'est ça.
Oui, c'est le livre.
Bah, c'est Rama.
J'ai dit quoi?
Tu as dit Mara.
Mara.
Alors, et ça sera totalement
Mara, peut-être.
C'était pour voir si ça suivait autour de la table.
Ah, bah oui.
Et vous étiez dans vos jeux, moi aussi, je suis dans mes jeux. Très bien, merci Gaël.
Jeu dans
vos jeux. Jeu improvisé. Donc voilà.
Mais en tout cas, oui, un riche programme, beaucoup de SF, donc pour Denis Villeneuve.
Mara, oui.
Oui, bon, c'est bon, peut-être pas non plus passer la journée là-dessus non plus. Je pense qu'il faut savoir accepter et tourner la page.
Donc ça fait quand même pas mal de projets pour Denis Villeneuve. Après,
des projets de SF en plus.
Bien sûr. Et en plus, à côté de ça, Cléopâtre avec encore, on se doute, pas mal de sable. Donc il y a quand même une thématique qui reste assez, assez commune. Après, on ne sait pas exactement dans quel ordre ces projets vont voir le jour. On sait que pour le Messie de Dune, il voulait faire une petite pause et en réaliser un autre avant, et on peut le comprendre. Ah oui, il mentionnait aussi un projet encore secret qu'il devait réaliser prochainement, assez vite. Alors, est-ce que c'est, parce que depuis le fameux livre nucléaire, l'annonce est sortie, est-ce que c'était ça ou pas? On ne sait pas, mais voilà, on retrouvera Denis Villeneuve assez vite et assez longtemps.
Espérons-le. Mais oui, je parlais d'une citation tout à l'heure, justement à l'occasion du vernissage de l'exposition de James Cameron. James Cameron en personne est venu ici à Paris pour le vernissage de l'expo, et on lui a posé une question, le Figaro lui a posé une question sur Denis Villeneuve, ce à quoi il a répondu: l'adaptation de David Lynch était décevante, il lui manquait la puissance du roman d'Herbert, les films de Villeneuve sont bien plus convaincants, les personnages sont esquissés, identifiables, c'est du pur cinéma. Je parle régulièrement avec Denis, de cinéaste à cinéaste, et nous enregistrons nos conversations comme Truffaut et Hitchcock. C'est une belle
promesse d'écouter ça.
Surtout quand on sait justement le fruit qu'a été cet échange de longue date entre Hitchcock et Truffaut. Si on peut avoir quelque chose de similaire entre Villeneuve et Cameron, ça donnerait quelque chose d'assez intéressant. On invitera bien sûr les deux dans Séance Tenante pour nous parler.
Il n'avait pas fait une série, Cameron, sur des cinéastes, justement, pour à la télé, ou un truc sur les cinéastes du fantastique. Je me demande s'il n'avait pas fait ça là, récemment.
C'est une excellente question. Voilà. Mais comme je n'ai pas la réponse,
c'est vrai.
J'ai l'impression que tu es le seul autour de la table à avoir des éléments de réponse autour de ça.
Non, écoute, c'est juste une intuition comme ça. Là.
Bah, écoute, en tout cas, on ira rechercher. C'est une autre question que tu poses à ceux qui nous écoutent, peut-être, question initiale.
Il y avoir un taux d'implication.
C'est tout ce qu'on souhaite. Avant de partir à la rencontre du commissaire de l'expo James Cameron à la Cinémathèque, peut-être juste faire un petit tour de table. James Cameron, pour vous, c'est quoi? C'est quel film quand on dit son nom et qui revient en premier, Robin?
Pour moi, ça reste Titanic, parce que c'est le premier souvenir marquant, avant même de savoir qui est James Cameron, en fait. C'est la rencontre d'un film plus ou moins jeune, et même une fresque historique, dramatique et romantique qui, forcément, ne peut pas laisser indifférent. Et c'est ensuite comprendre qui est James Cameron quelques années plus tard, comprendre pourquoi ce film est si important par rapport aussi à lui, son obsession pour le Titanic, pour le fait qu'il soit descendu voir l'épave, pour sa reconstitution du navire avec le plus de fidélité possible. Donc je pense que, et sa carrière est évidemment très riche, mais que le film qui me reste et qui vient instantanément quand je pense à James Cameron, c'est Titanic.
Ouais, je suis assez d'accord. L'effet générationnel aussi qu'il y a eu, le phénomène qu'il y a eu en grandissant, le cinéma, le plus grand succès de tous les temps au cinéma, c'était Titanic. Il y avait ce truc de film grand spectacle, de gros chefs-d'œuvre de cinéma, de grands films à regarder ensemble à la télévision quand ça passait. C'était toujours le phénomène, ou même les VHS, parce que c'était en deux VHS, puis en DVD, en Blu-ray, etc. Il y a toujours eu quelque chose d'assez bouleversant, je trouve, avec ce film et marqueur de son époque.
Et il a quelque chose de, en tout cas, moi, dans ma jeunesse, la façon dont je le concevais, de films longs. Et ouais, c'était pas forcément le cas de tous les films qu'on voyait, mais Titanic, on savait que c'était un film qui était très long.
Ah, moi, je savais que quand j'avais 3 heures devant moi pour quelque chose de chiant, je me disais, ok, c'est la durée de Titanic.
Oui, voilà.
C'est
faut que
je... Mais je me dis, si je suis capable de regarder Titanic avec beaucoup de plaisir, je suis capable aussi d'attendre 3 heures ou de subir 3 heures d'un DS, d'un examen ou d'un truc comme ça.
Et on sait derrière que c'est une invitation vraiment longue à un voyage riche.
Quel.
Moi, je veux dire Titanic aussi, mais je veux dire Titanic avec Avatar, pas pour
la double séance.
Ouais, mais parce que Titanic, pour moi, en fait. D'abord, je voudrais dire.
Ne t'énerve pas, parce que tu viens de taper sur la table.
En fait. Tes questions m'énervent, Alexis. Non, mais parce que en réalité, t'as envie de tout prendre. La vérité, c'est que tu me dis à quoi tu penses d'abord. Et en fait, moi, d'abord, j'ai Schwarzenegger en Terminator.
Pour avoir
et puis
revu
après, j'ai
Terminator récemment et Le Jugement dernier dans la foulée. C'est des expériences
au-delà de voilà. Bien sûr. Mais si je dois choisir, je dirais Titanic avec Avatar, parce que Titanic est un film qui clôt d'une certaine manière le grand cinéma hollywoodien classique, même dans son histoire complètement folle, le film qui a failli faire couler la Fox, la construction des super tankers pour aller filmer, enfin c'était complètement dingue. Et comme tu dis, moi j'étais un tout petit peu plus vieux, à quelques mois près j'étais tout petit peu plus vieux que, que vous. Et je voyais, c'était une espèce de show, quoi. C'était une espèce de feuilleton, le tournage du film. Est-ce qu'il va le finir? Est-ce qu'il va s'arrêter? Enfin, c'était fou, quoi. Et donc, Titanic est un grand film classique qui finit, en fait, le cinéma hollywoodien. Et Avatar, des années plus tard, est un film qui ouvre le cinéma sur le futur, avec la 3D, avec cette espèce de fantasme de l'homme-machine. Enfin, voilà. Et je trouve que ces deux films mis côte à côte forment une espèce de diptyque. Et je trouve que c'est un truc que fait très bien d'ailleurs l'exposition, c'est-à-dire montrer que les obsessions de Cameron sont là depuis le début et qu'il y a une espèce de fil rouge, de cohérence à travers tous ces films. Et pour moi, ces deux films-là, vraiment back-to-back, sont extraordinaires.
Mais c'est aussi une des particularités du réalisateur de prendre 12 ans ouais. Entre deux films et d'arriver à faire à chaque fois le plus grand succès de l'histoire du cinéma avec la suite qui sort après, enfin avec le film suivant. Enfin, c'est fou, quoi, de se dire qu'entre 97 et 2009, alors ici, il a fait deux documentaires
aussi,
Alien of the Deep et Phantom of the Abyss, dans l'autre sens. Mais c'est vrai que, enfin, toujours dans cette exploration, dans cette passion de l'exploration, parce que il y avait déjà tout un tas de technologies immersives pour le spectateur avec ces films-là, mais en même temps, il préparait de l'autre côté Avatar, qu'il avait rêvé.
Et même en revoyant ces documentaires, on a l'impression qu'il préparait Avatar, la voie de l'eau.
Non, mais c'est ça.
On a vraiment quelque chose d'une continuité dans toute sa filmographie et dans sa vie.
C'est incroyable.
Elisa ?
Bah, je ne vais pas dire Titanic, puisque tout a déjà été dit. Non, je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit sur Titanic, et je pense que ça fait partie de mon top 3 facilement. Mais je dirais, en fait, aujourd'hui, je dirais Terminator 2, en fait. Parce que... Et en revoyant l'exposition, en fait, tu te rends compte du discours sur l'homme et la machine, en fait, qu'il y a. Et justement, ce que vous venez de dire sur cette projection, en fait, qu'il a de pouvoir lui-même, alors déjà l'envisager dans ses rêves, parce que les gens le découvriront, mais Terminator est né d'une vision, finalement. Et je trouve que ça rassemble, alors que c'est son deuxième film, du coup, toutes les thématiques en fait que tu retrouveras
officiellement c'est son
troisième
Piranha 2
c'est son troisième
Piranha 2 il y a Xénogénésis avant
mais... oui alors non mais alors sorti
c'est son premier film reconnu
et
officiellement
assumé.
c'est Terminator
mais
après, il y a surtout The Abyss
oui, il y a The Abyss entre temps oui autant pour moi
on va dire que c'est son troisième film
je situe Abyss The Abyss après donc son troisième film je trouve qu'il y a quelque chose qui en fait il arrive à convoquer toutes ces thématiques et les thématiques en fait que l'exposition présente. Je pense que du fait de ce qui se passe aussi aujourd'hui dans le débat avec l'intelligence artificielle, je pense que son film prend une autre dimension. C'est aussi à quel point, ça montre à quel point, en fait, je pense James Cameron, n'est pas juste un cinéaste, mais aussi un explorateur et un visionnaire, en fait. Quelqu'un qui grandit avec son temps et qui grandit, même limite un peu trop vite, parce qu'il arrive à anticiper des choses. Donc je dirais aujourd'hui, en fait, Terminator 2. Finalement.
Que j'ai revu il y a pas très longtemps et qui était extraordinaire. Enfin,
oui,
pas mal. Ce qui est fou, non mais c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait sortir des critiques de l'époque d'un grand magazine de cinéma pour voir un peu ce que ça disait sur
non ça va.
Sur
le deuxième, ouais ça va.
Ça va.
C'est le premier ou
mais alors
c'est
un peu compliqué. Pourquoi j'aime le 2 parce que je pense qu'il prend aussi
le 2.
Bah alors parce qu'il prend le contre-pied du 1 totalement et je trouve qu'en fait la figure de Schwarzenegger est complètement inversée et il y avait quelque chose qui était complètement inattendu
parce que
pendant
plus d'une vingtaine de minutes
tu crois que c'est méchant
et je pense sincèrement que plus petite j'ai vu le 2 en premier je pense qu'on m'a montré le 2 avant de me montrer le 1 et je pense qu'il y a aussi cet attachement là
mais
fait.
C'est aussi une machine à séquences cultes enfin toutes les grandes scènes d'action de ce film sont absolument folles de bout en bout et on n'a qu'une envie c'est de enfin moi je l'ai vu ce week-end j'ai envie de le revoir déjà quoi parce qu'il y a un truc que t'as envie de te replonger dans cet univers de fou je t'invite à le regarder mais oui
on a oublié Aliens aussi hein.
Mais alors on n'a pas oublié alors Alien le retour on est en France hein,
ouais, pardon
c'est Cinémathèque française
tout à fait donc s'il te plaît on n'est pas à l'Académie française mais quand même essaie de faire un tout petit effort mais oui Alien le retour qui est aussi absolument fantastique dans sa prouesse visuelle, dans le fait de reprendre l'œuvre de Ridley Scott et d'en faire un truc totalement différent où on sort du biclos, on va faire un
avec
film de
déjà
guerre.
Les mechas qui seront dans
c'est
Avatar
ça, c'est ça.
Avec son obsession des héroïnes avec
totalement. Enfin,
Bon petit cinéaste, hein.
Un sacré film. Mais c'est Alien le retour est sorti avant.
Oui, c'est ce que en fait c'était pour ça que
c'est de pire en pire.
C'est pour ça que je disais. C'est pour ça que je disais on a oublié Aliens en fait. Pas pour dire que.
Oui, donc vraiment.
Bon, bah son quatrième film alors.
Cinquième si tu comptes Piranha 2. Mais bon là pour le.
Non mais dans ces cas-là si on commence il assume pas le Piranha 2.
C'est vrai qu'il assume.
Après on pourrait le dire, on pourrait le citer.
Mais il est dans la cinémathèque. Il est dans l'expo de la cinémathèque.
Tout à fait dans la cinémathèque.
Donc il l'assume quand même.
Ils ont été tout à fait exhaustifs. Mais c'est l'occasion pour moi de vous parler de James Cameron et du petit billet que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Il est tout chaud. Ouais. Si, il est tout chaud. Mais je vais vous parler de
il est tout chaud. Il est tout chou.
Il est tout chou. Ah, il est tout chou. Ça, c'est, tu
est-ce
le diras.
James Cameron est tout chou.
James Cameron est tout chou. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une des grandes obsessions de James Cameron, c'est l'immersion. L'immersion au cinéma, mais aussi l'immersion ailleurs. Et je vous en parle tout de suite.
Où va-t-on, mademoiselle ?
Dans les étoiles.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes marottes, les parcs à thème, un médium qui n'a pas échappé à l'œuvre et à l'héritage de James Cameron, loin de là, et dans lequel le metteur en scène et génie de l'imaginaire a su marquer son empreinte de la plus belle des manières, de Terminator à Avatar, mais commençons avec un peu d'histoire. En 87, ouvre Star Tours à Disneyland Resort en Californie, apothéose d'une rencontre entre les génies créatifs des équipes de Disney et celles de Lucasfilm, chef-d'œuvre d'immersion mêlant un univers absolument culte à une technologie bouleversante, l'attraction devient rapidement un phénomène. À la même époque, c'est le début de la grande confrontation entre les parcs Disney, implanté un peu partout dans le monde depuis 1955, et Universal qui redouble d'efforts pour rattraper son retard. Les ouvertures de parcs s'enchaînent alors dans le monde et Universal va gonfler ses rangs avec les plus grands talents disponibles à l'époque, dont un certain Steven Spielberg, nommé carrément conseiller créatif d'Universal Studios Florida à son ouverture en 91, un poste qu'il occupe d'ailleurs encore aujourd'hui. Tonton Steven y ouvrira notamment E.T. Adventure, inspiré de son film culte, tandis qu'il lancera dans le même temps le chantier pour la Californie, cette fois-ci d'une attraction tirée de son film alors en pleine production, Jurassic Park, mais ça c'est une histoire pour plus tard. Les grandes franchises de cinéma débarquent donc dans les parcs à thème avec plus ou moins de succès et chacun redouble d'efforts pour créer l'expérience la plus immersive, originale et spectaculaire à offrir à ses spectateurs. Et en termes d'immersion, d'originalité et de grands spectacles, James Cameron est le candidat idéal. On est en 1996 et ouvre T2 3D Battle Across Time à Universal Studios Florida, un film en 3D donc, mais pas que, réalisé par James Cameron, John Bruno et Keith Melton, génie des effets spéciaux, et Stan Winston, le célèbre maître des animatroniques et autres créatures en tout genre. Des génies donc que sont allés chercher les créatifs d'Universal pour créer un spectacle absolument fou dans la pure lignée de Terminator 2, le jugement dernier sorti quelques années plus tôt, et qui lui fait d'ailleurs office de suite non officielle. On y retrouve tous les acteurs du précédent opus, Arnold Schwarzenegger en Terminator, Linda Hamilton en Sarah Connor, Edward Furlong en John Connor, plus tout à fait jeune ado prépubère, et Robert T. Patrick en T-1000. L'attraction invite ses visiteurs à expérimenter l'intérieur des locaux de Cyberdyn Systems pour une présentation exclusive de ses nouveaux robots quand tout à coup, Sarah Connor en chair et en os vient interrompre l'événement rapidement chassé par le T-1000. S'ensuit alors une course-poursuite et des scènes d'action dantesques sur scène avec des comédiens, mais aussi à l'écran où est donc projeté un film en 3D avec le casting d'origine dans la pure lignée du film de 91. On raconte que si l'attraction a coûté dans les 60 millions de dollars de l'époque, le film à lui seul en aurait coûté 24 millions de dollars pour seulement 12 minutes de film. Ça fait cher le court-métrage, mais quand on a choisi au casting, j'imagine qu'on dépense sans compter. Presque 30 ans plus tard, l'attraction qui avait été dupliquée en Floride et au Japon est aujourd'hui fermée, mais je ne peux que vous inviter à aller chercher des vidéos de celle-ci sur YouTube. Une curiosité incroyable à découvrir de façon indispensable pour tous les fans de la saga Terminator. Dans les autres curiosités, les metteurs en scène, on peut mentionner Titanic, The Experience, et oui, tout est dans le titre, hein, une attraction à visiter à pied, qui divisait ses visiteurs à l'entrée de la file d'attente en plusieurs groupes de différentes classes, le tout pour vivre une simulation du naufrage. Ami du glauque, bonjour. Une attraction ouverte dans le parc éphémère Fox Backlot Studios en Australie, une tentative du groupe Fox à l'époque de concurrencer Disney et Universal sur leur plate-bande, tentative peu fructueuse qui fermera ses portes en 2001, deux ans après son ouverture. En reste aujourd'hui un des plus grands studios de cinéma australien, qui appartient aujourd'hui à Disney donc, mais surtout une fantastique vidéo que je vous invite à découvrir sur YouTube, celle de l'inauguration des studios en 1999, qui regroupe tout le kitsch du Hollywood du siècle dernier, le Stras
brasses, les paillettes, les tableaux musicaux, une Kylie Minogue qui inaugure la soirée déguisée en Marilyn Monroe, suivie d'un Hugh Jackman pré-Wolverine en maître de cérémonie. Mais revenons à James Cameron, et ce qui est assurément l'une des plus belles zones thématiques jamais créées dans un parc à thème au monde, celle de Pandora, inspirée du film Avatar sorti en 2009. Nous sommes à Disney's Animal Kingdom, l'un des 6 parcs à thème de Walt Disney World Resort en Floride, et ouvre, dans ce qui est assurément déjà le plus beau des parcs de la destination, une zone dédiée aux rêves de jeunesse de James Cameron, Pandora, World of Avatar, en 2016. S'offre aux visiteurs une immersion absolument démentielle dans l'univers du film. Vous traversez d'abord ce qui pourrait s'apparenter à une forêt tropicale avant de poser littéralement le pied sur Pandora. S'élèvent ainsi devant vous, face à vous, les montagnes volantes de la planète du film qui semblent ne tenir que dans les airs que par l'action du Saint-Esprit. La végétation, les cascades d'eau, l'ambiance générale vous plongent comme rarement dans un univers de fiction. Et l'immersion ne s'arrête pas là et se poursuit dans ce qui est à mon sens une des meilleures attractions de la planète, si ce n'est la meilleure, Flight of Passage. Une aventure qui nous invite à nous connecter justement à un avatar et à voler sur le dos d'un banshee volant au-dessus des nombreuses contrées de la planète Pandora. Je ne spoilerai pas plus cette attraction extraordinaire, si ce n'est en vous disant que c'est probablement la seule fois qu'une attraction m'aura mis la larme à l'œil dans ma vie de fan de parc à thème, notamment grâce à la bande originale de l'attraction, comme celle de toute la zone d'ailleurs, composée par James Horner et Simon Franklin. On ne peut d'ailleurs que croiser les doigts pour espérer voir un jour l'univers d'Avatar arriver dans nos contrées à Disneyland Paris. Bref, si James Cameron a toujours été poussé par le grandiose, le spectaculaire et les prouesses technologiques au profit d'une immersion toujours plus magique, cette soif d'innovation l'a aussi poussé à chercher à raconter la suite de ses histoires de façon toujours plus immersive et inédite, et c'est aussi ça la force d'un visionnaire au service de l'imaginaire, comme James Cameron.
Bravo. Super.
Trop bien.
J'ai appris plein de trucs.
Ouais, ça donne envie de voyager.
Robin, il avait l'air au courant de tout.
Je découvrais énormément de choses sur les premières attractions.
Cette attraction en Australie, là.
Alors, celle de Titanic, j'ai vraiment envie de voir.
Ça a l'air terrifiant. C'est une attraction qui a vraiment été produite par John Landau, qui avait été consultant sur le projet.
Il n'a pas eu que des bonnes idées.
Voilà. Qu'on se le dise tout de suite. Il y a eu quelque chose. Mais il y a un truc intéressant qui part des attractions mais qui va vers le cinéma. On connaît son attrait pour la 3D, pour l'IMAX, pour tous les formats, l'HDR qui a eu sur le dernier Avatar. Selon vous, comment il utilise justement ces outils technologiques-là au profit de la narration pour créer des expériences toujours plus spectaculaires pour le spectateur ?
Je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais en tout cas,
ça commence très très fort en tout cas.
Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'il attend toujours le bon moment pour utiliser les avancées technologiques et qui va les développer pendant des années. Et quand il sent que c'est bon, même si le public pense que ça ne l'est pas, il va les utiliser. C'est pour ça que je prends un peu des gants pour dire ça. Tu as mentionné l'HDR, par exemple. Ouais.
C'est totalement.
On sait que c'est une avancée technologique quand même importante et qui permet, dans des bonnes conditions, d'avoir une immersion encore plus forte dans le film. Mais on sait aussi que ça peut déstabiliser certains spectateurs quand ils passent de 24 images par seconde à 48 images par seconde. Et en même temps, est-ce qu'il n'a pas déjà un coup d'avance sur tout le monde avec une technologie qui va peut-être bien s'installer? Voilà, donc pour répondre à ta question, c'est un peu les idées qui me viennent sur sa façon d'utiliser les nouvelles technologies.
Le HDR, c'est intéressant parce que j'ai l'impression... Alors, pareil, hein, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression, pour moi, que c'est l'échec principal de Avatar 2. C'est-à-dire que la technologie n'a pas pris. Moi, je me souviens quand le premier Avatar, vous vous souvenez, c'était d'un seul coup, on découvrait le numérique, on découvrait le relief, et c'était fou. C'est-à-dire que les salles s'équipaient, que en fait, tout le monde avait suivi la nouvelle folie du roi Cameron. Là, le HDR, j'ai l'impression que c'est resté totalement marginal, que peut-être qu'il a un coup d'avance. Mais ce que je trouvais intéressant dans le relief avec Avatar, c'est qu'il avait un coup d'avance, mais il provoquait un raz-de-marée. Là, il a peut-être un coup d'avance, mais bon, ceci dit, Peter Jackson l'avait fait avant avec le Hobbit, et même Ang Lee avec certains de ses films. Et puis surtout, je trouve que, en fait, on ne l'a pas vu comme ça.
Est-ce que c'est, dans son esprit, c'était aussi important que n'avait été la 3D en 2009? Je ne suis pas sûr. Mais oui,
je sais pas.
Effet,
non, mais c'est pour ça que je te dis, on ne sait pas quels étaient d'un point de vue technologique les enjeux de ces outils-là.
La grande question, c'est pourquoi pas tout. Pourquoi justement faire un changement en cours de film sur certaines scènes qui sont parfois d'ailleurs collées. Enfin, ça me fait penser un peu parfois. On mentionnait les films en IMAX qui sont pas tout le temps tournés dans le format exactement. On parlait du premier Dune exactement où on voyait vraiment les séquences.
On passait des bandes noires.
Et où c'était assez marquant, surtout au début. Là, c'est peut-être un petit peu pareil. Donc, à voir dans les.
Je vais faire une analyse qui a peut-être vraiment. Peut-être qu'il y a des. Encore une fois, peut-être que des gens vont réagir.
T'as vraiment envie de créer de l'interaction, en tout cas. Et ça, on peut pas te l'enlever.
Non, mais je me disais, peut-être que. Et c'est sans doute parce qu'on a vu l'expo, mais je me disais que c'est peut-être comme un peintre qui change de pinceau, en fait. Qui, d'un seul coup, là, sur telle zone, a envie de dire ah non, là, ça marchera mieux avec cette brosse-là plutôt scène, qu'avec. Ouais. Et peut-être que c'est comme ça qu'il a envisagé ses changements de format.
Ouais, je pense aussi que c'est un réalisateur qui fait pas vraiment de concessions en fait. Je pense qu'il comme on le voit en fait, c'est comme c'est un auteur aussi et pas juste un technicien, même s'il a commencé comme ça. Hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué.
On parlait de HDR, c'est plutôt du HFR d'ailleurs, ouais. Le high frame rate. Bon, c'est un peu trompé confusion, dans l'appellation. Ouais. Bref, on va maintenant rentrer dans l'esprit de James Cameron, dans les rêves de James Cameron, en partant dans l'exposition qui lui est donc dédiée à la Cinémathèque française. On part à la rencontre de Mathieu Orléans, commissaire de l'exposition L'Art de James Cameron à la Cinémathèque française. Mathieu Orléans, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir dans cette très belle exposition. On est ici à la Cinémathèque française pour l'exposition L'Art de James Cameron. On est quelques jours après son ouverture. On est dans quel état d'esprit ? J'imagine que c'est un travail de longue haleine, de longue date.
Bon, on est très heureux de l'avoir ouverte. Comme toujours, à chaque fois, une exposition, c'est une petite montagne à gravir. Il y a beaucoup d'enjeux, des scénographies, de lumière, de son, de montage, de droit, donc il faut que tout soit raccord le jour J de l'ouverture. Là, il y avait en plus de ça la charge de plaire à James Cameron qui est venu, qui est un cinéaste en activité, qui conserve ses archives, donc il y a un regard, plus qu'un droit de regard, disons une sensibilité par rapport à son propre travail parce qu'il est un jeune cinéaste tout à fait en activité. Et donc ça c'était peut-être l'enjeu du côté des curateurs le plus important, quoi, qu'ils soient contents, qu'ils s'y reconnaissent, qu'ils trouvent que ça ne le trahissait pas et que même ça permettait d'approfondir son œuvre, en particulier ici son œuvre graphique, artistique, qui est méconnue, inconnue, inédite.
D'où le sens de ma deuxième question, comment on pourrait la décrire, cette exposition ? Parce que c'est beaucoup de dessins. Quel est le postulat de départ et comment on peut la décrire ? Ouais.
Cette exposition, elle s'intitule pas par hasard L'Art de James Cameron. Elle met de côté tout d'un coup ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire plutôt son cinéma. Ça veut pas dire que le cinéma n'est pas présent, mais ça veut dire que le fil rouge est clairement du côté d'une pratique qu'on méconnaît. En tout cas, peut-être certains geeks, certaines personnes hyper spécialistes savent qu'il est toujours un grand dessinateur, mais c'est pour beaucoup de gens une vraie révélation. On montre où ça a commencé, quand il est évidemment très jeune, nourri de comics, de bandes dessinées, de livres de science-fiction, jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une pratique qui traverse toute sa vie, toute sa carrière. C'est pas simplement à un moment donné qu'il se serait mis à faire du dessin, c'est tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment le fil rouge, de montrer les différentes typologies de dessin qu'il a pu faire. Il fait tantôt du dessin plutôt artistique, peinture, tantôt du dessin technique qu'il va partager avec ses équipes, tantôt du storyboard, tantôt c'est du rêve matérialisé sous forme de dessin. Donc il y a plusieurs, disons, statuts de dessin et plusieurs typologies de dessin qui ont quasiment toujours pour finalité quand même le cinéma. Alors soit des films réels qu'il a vraiment tournés, soit des films fantasmés, soit des films qu'il n'a pas pu tourner. Et le fait qu'on ait cette perspective cinématographique fait qu'évidemment dans la scénographie, les dessins au mur sont mis en rapport avec des objets de cinéma, des accessoires, des costumes et des extraits de films, des montages qui permettent de comprendre, de contextualiser ces dessins. Alors beaucoup de gens quand même connaissent les films de James Cameron. Il n'a pas fait énormément de films, quasiment tous ses films sont cultes. De Terminator, Abyss, Aliens, Avatar. Donc, on part pas sur quelqu'un, disons, de méconnu ou d'inconnu. Malgré tout, voilà, personne connaît par cœur les films. Et tout d'un coup, de faire dialoguer un dessin avec une œuvre ou de faire dialoguer un dessin avec un extrait de film, ça prend tout son sens. Et ça, c'était l'apport de la Cinémathèque, je dirais.
Et pourquoi c'était 2024 le moment de consacrer une exposition à James Cameron ? Pourquoi pas avant, justement, avec tous ces films que vous citiez à l'instant ? Pourquoi c'était à ce moment-là qu'il fallait la faire ?
Alors, je crois que pour être honnête, Cameron, il avait mis un peu de côté cette pratique. Il la jugeait très amateur, il la jugeait pas forcément partageable avec le grand public. Et en fait, c'est vraiment à l'occasion du Covid que lui et sa directrice de fondation, en fait, il a créé une fondation philanthropique qui s'appelle Avatar Alliance Foundation, donc la directrice artistique de la fondation et lui-même, ont mis un peu le nez dans des cartons qui étaient dans un lieu de stockage, dans un coffre-fort, parce que tout ça est quand même assez protégé à Los Angeles. Et en fait, ça leur est revenu, c'est remonté à la surface et eux-mêmes n'en avaient pas vraiment conscience. Donc là, on parle de 2020, en fait. Donc jusqu'à présent, ça n'avait jamais été montré, si ce n'est évidemment à l'intérieur de l'équipe du film, parce que comme je l'ai dit, certains dessins ont un usage direct de fabrication d'un effet spécial ou d'un objet ou d'un costume, mais ça n'avait jamais été montré. Et lui-même, je crois, avait fait une sorte de déni, avait oublié presque que ça existait et ou ne voulait pas le partager. Là, je ne suis pas dans sa tête pour le dire. Donc de toute façon, ça n'aurait pas pu être antérieur à cette date. Et après, le temps qu'il l'ait organisé, qu'il l'ait pensé, qu'ils aient réfléchi à qui pouvait approcher pour montrer ses dessins, évidemment, ça a pris un peu de temps. Et nous, on s'est dit, tiens, c'est plutôt aussi bien. On est entre deux avatars. Avatar 2 venait de sortir quand on a commencé, disons, à réfléchir. Il y a la perspective d'Avatar 3 quand même bientôt. L'expo va sûrement tourner, donc va accompagner la sortie d'Avatar 3, pas à Paris, mais ailleurs. Donc, on est dans un timing quand même, disons, plutôt bien avec un James Cameron qui quand même fait l'actualité toujours.
Il y a une vocation de la faire tourner, d'ailleurs, cette expo ?
Ça, toujours. Oui, à la Cinémathèque, c'est vrai qu'on a envie de faire tourner les expos. On le fait tourner. C'est le cas de beaucoup d'expositions qu'on fait. Et celle-là, on n'a encore rien signé, donc je ne peux rien vous dire. Mais évidemment, beaucoup de gens se sont manifestés déjà pour pouvoir la montrer, sachant que c'est un sujet hyper universel. Je veux dire, il n'y a pas qu'en France. Même si en France, il expliquait lui-même qu'il avait un rapport particulier à la cinéphilie très vivace aujourd'hui, très forte, et qu'il avait un statut d'auteur, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, où il est plutôt considéré comme un cinéaste peut-être plus entertainment et moins valorisé.
De gros blockbuster.
Exactement. Ouais. Malgré tout, hors de la France, évidemment, il est très apprécié, très aimé. Et il y a beaucoup de musées de cinéma qui ont poussé récemment. Je veux dire, il y en a qui sont anciens, il y en a qui sont récents. Je pense au musée de l'Académie à Los Angeles, le musée High Institute à Amsterdam, par exemple. Donc, tous ces musées peuvent être intéressés, mais ça peut être aussi des musées de sciences, des musées des beaux-arts. Le fait que ça touche un peu à différents types de sujets peut en fait faire fonctionner l'exposition ailleurs. De toute façon, une expo, elle s'adapte toujours. C'est pas comme une pièce de théâtre où vous faites vraiment bouger la même pièce de théâtre avec la même scénographie. Là, s'il y a 300 mètres carrés de plus ou de moins, il faut changer. Il faut parfois changer les textes parce que le contexte culturel n'est pas tout à fait le même, donc on explicite les choses autrement. Les montages sont pas soumis aux mêmes, je sais pas, aux mêmes lois aussi ou au même type de public. Donc de toute façon, une itinérance, ça veut dire une adaptation, et on espère qu'on le fera évidemment.
Est-ce qu'il y a pas la volonté, vous venez un peu d'y répondre, mais est-ce qu'il y a pas la volonté aussi pour Cameron de modifier un tout petit peu la perception que le public peut avoir de son cinéma? C'est-à-dire que globalement, c'est un cinéaste artificier, on va dire, un technicien, quelqu'un qui pousse les limites du médium d'un point de vue technologique très très loin, et on en a oublié presque que c'est aussi un artiste au sens le plus noble et le plus presque traditionnel du terme. Je pense que Avatar, de ce point de vue-là, est un moment de bascule. Est-ce qu'il n'y a pas chez lui, au moment où il commence à travailler avec vous, cette volonté de réaffirmer que son art vient de loin, vient du dessin? Je trouve ça passionnant, moi, et qu'il y a une continuité aussi à travers toute sa filmographie.
Lui, en partie, c'est sûr, je ne peux pas parler totalement pour lui, ça m'est difficile, mais c'est vrai que, en tout cas, ce goût du dessin, cette obsession du dessin, cette histoire de l'art qu'il connaît, tout ça, c'est quelque chose qu'il avait évidemment envie de raconter. Après, la manière dont il se positionnerait lui-même sur l'échiquier du cinéma, c'est peut-être inconscient de son côté, c'est peut-être non formulé, en tout cas du côté de la Cinémathèque, oui, ça permet, et c'est intéressant, de pouvoir valoriser la dimension d'auteur, de cohérence de son œuvre. Donc c'est un peu des deux, il y a lui, mais lui ne va pas forcément tout nous dire, il y a une forme d'humilité quand il parle de son propre travail. Et nous, effectivement, on a envie de le faire bouger là où il n'est pas forcément perçu. Et du coup, c'est vrai que c'est une manière un peu différente de rentrer dans son œuvre. On a choisi en plus un découpage qui est plus ou moins thématique. Il y a quand même une forme de chronologie, parce qu'on commence par ses premiers dessins et on finit plus ou moins par Avatar. Mais entre les deux, on s'est permis de faire des rapprochements de films de manière thématique. Et ça permet donc de voir qu'il y a effectivement dans son œuvre une structure, des obsessions, des motifs qui reviennent. Ça va de l'intelligence artificielle, le rapport à l'altérité, à la créature, le rapport au passage du temps, le passage aussi dans l'espace et sous les océans. Donc il y a le thème de l'exploration. Il y a beaucoup de thèmes qui font que tout d'un coup, peut-être pour le grand public, des films qui sont souvent des territoires en soi très forts, cultes, en fait, dialogue avec d'autres films de sa propre œuvre. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les gens n'avaient pas forcément perçu. Et du coup, l'exposition permet disons, traverser toute son œuvre avec cette nouvelle dimension dans la tête. Et ça, ça nous plaisait plutôt. Même si je disais, en France, il est quand même perçu comme un auteur. Ça n'a peut-être pas été le cas dès le début. Dès 84, des Terminator, mais très vite Terminator a été considéré comme un film qui avait une vraie ambition esthétique, artistique, et qu'elle appartenait pas simplement à un genre de commande, et qu'elle était vraiment vraiment pensée par quelqu'un qui était derrière la caméra, qui pensait mise en scène. Donc ça, en France, ça a été très vite, peut-être pas, je dis, pas simultané, mais très vite formulé. Malgré tout, ça a peut-être été un peu oublié avec le temps. Il le redisait d'ailleurs à sa masterclass. C'est pas parce qu'il y a des millions et des milliards sur la table pour Avatar que Avatar n'est pas aussi outre une œuvre d'expérimentation, outre d'être une œuvre d'entertainment, quoi. Et que finalement, quand on regarde bien ce qu'il a voulu faire, c'est une prise de risque. D'ailleurs, les studios parfois ont eu peur de le suivre. On oublie aujourd'hui que Titanic même a été très risqué, que les producteurs n'y croyaient pas. On a du mal à le croire aujourd'hui. Donc en fait, ça devient des blockbusters, ça devient des films cultes, mais au départ, à la racine, il y a une prise de risque, de la même manière qu'il y a une prise de risque quand il fait un dessin. Donc c'est quelqu'un qui, évidemment, est dans une forme de recherche, toujours, une forme de, voilà, vous aviez dit, de dépassement des limites, et que ça soit dans le dessin ou dans sa pratique cinématographique, et on l'oublie parfois, ouais.
Vous parliez tout à l'heure des obsessions. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a un dessin qui date de 77, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression qu'il date de 77, où on voit un homme assis dans un fauteuil roulant avec les pieds qui deviennent des racines, et il fantasme une créature dont on peut imaginer que c'est lui. Enfin, en 77, il a déjà pensé à Avatar, en fait.
Exactement. Alors ça, c'est un dessin un peu orphelin. C'est un dessin comme il en fait. Il y a un rêve lié peut-être à une idée, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Lui-même peut donner une anecdote, mais c'est des dessins solitaires. Par contre, c'est vrai qu'en 77, donc à la même époque, 78, il a vraiment le projet d'un film qui s'appelle Xenogenesis, qu'il va écrire avec Randy Frakes, dont on a beaucoup, beaucoup d'éléments ici. Comme c'est un film qu'il n'arrive pas à produire et il n'arrivera pas à le produire, il y a beaucoup de dessins et de très beaux dessins qui ont été réalisés pour ce film. Il en a pu tourner peut-être 12 minutes.
Oui, c'est ça, il y a un court-métrage.
Il y a un court-métrage, mais qui n'est pas un court-métrage dans le sens où il aurait un début, une fin. C'est des scènes qui ont été tournées, mais complètement incomplètes, dont on montre ici 5 minutes.
Et pour rejoindre... Mais sur ce dessin-là, il y a quasiment tout son cinéma.
Et voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour rejoindre ce que vous dites là, en un dessin, enfin plusieurs dessins là, pour le coup, il y a vraiment l'ADN de tout son cinéma. Mm-hmm. On retrouve la conquête spatiale, on retrouve la question de la colonisation de l'espace parce que menace nucléaire sur la Terre, en l'occurrence c'est menace d'un trou noir, mais ça revient un petit peu au même. On retrouve la question de l'enfance et de l'affiliation, on retrouve le motif des corps cryogénisés, la main robotique, parce que le personnage du héros, le pilote, perd son bras et donc il a une sorte de bras à la Terminator, jusqu'au peuple des femmes et des hommes bleus, qui sont clairement identifiés dans le tableau, qui sont là aussi, comme l'homme en chaise roulante, une préfiguration d'Avatar. Donc c'est vrai qu'il y a l'idée que, comme ça se joue parfois pour certains auteurs, hein, l'artiste, les années d'enfance, d'adolescence, il y a tout d'un coup un condensé de tout ce qui va pouvoir peut-être s'exprimer par la suite. Et là, c'est très flagrant, oui, dans ses dessins.
Et maintenant que l'exposition est installée, ouverte, est-ce que vous, en la reparcourant, vous avez découvert ou redécouvert des choses sur James Cameron qui vous avaient peut-être pas au début marqué, ou au contraire que vous avez pu creuser un petit peu plus avec la façon dont ces pièces sont exposées ?
C'est une bonne question, c'est pas évident d'y répondre. Moi, je suis pas un grand spécialiste de Cameron à la base, déjà, parce que on a quand même tous des spécialités. C'était pas mon cinéaste, voilà, que je connaissais le mieux. Évidemment, j'avais vu les films comme tout le monde, donc en ça, la Fondation Avatar a vraiment aidé, parce qu'elle a le narratif de chaque dessin, de chaque œuvre. Donc il y a eu beaucoup de découvertes, je veux dire, dans ce projet. Moi, j'arrivais pas blasé, genre je sais tout sur Cameron. Au contraire, il y avait une volonté de découvrir, et grâce à eux et à leur générosité, il y a eu vraiment du partage. Donc il y a eu un effet de découverte au début, disons il y a un an et demi, au moment où qu'on a commencé à faire ce projet. Après, effectivement, il y a une phase où on commence à se familiariser avec les œuvres, on a l'impression de les connaître, et puis on les redécouvre, c'est vrai, au moment de l'accrochage, parce que c'est vrai qu'on perd de vue. Moi, j'avais été juste les voir une fois à Los Angeles, mais rapidement, mais on n'en a pas la conscience physique, quoi. C'est vrai que tout d'un coup, la question des formats, la question des papiers, il y a plein de choses qui ressurgissent, et on a tout vu à un moment donné sur un ordinateur, tout paraît un peu à se ressembler, avoir la même tête, et là, tout d'un coup, on se dit, mais non, en fait, il y a il y a plein de choses. Et par exemple, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très beau dans l'expo. Il y a plusieurs, c'est des dessins sur du papier noir. Et c'est quelque chose qui est très, très particulier. Il le fait dès le début, hein, dès les années 80. Pour certains films qui sont d'ailleurs pas les siens, il dessine sur ce papier noir. Et lui, il raconte que c'est le meilleur moyen pour lui, parce qu'on peut, au crayon blanc, faire apparaître la lumière. Et que quelque part, cet écran noir, c'est déjà un peu l'écran du cinéma, quoi. Et que c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ses films, encore que sur les papiers blancs. Et c'est, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu sur les ordinateurs et tout ça, mais en les voyant en vrai, la matérialité du papier noir, j'avoue que ça m'a un peu sauté aux yeux. Après, pour Titanic, qui est la salle juste à côté derrière moi, on a la chance d'avoir pas mal d'objets qui sont issus du film, que ça soit des luminaires, les portes, les rambardes ici, qui sont vraiment des accessoires du film. Donc ça, c'est toujours assez émouvant. Typiquement, sur une photo, ça rend pas grand-chose. Et puis, dès qu'on voit des objets, ces objets 3D qui viennent du Titanic, alors en plus, avec la mythologie du Titanic qui évoque la destruction, qui évoque quelque chose de final, les
et
voir
puis
là...
Et tournage c'est aussi assez particulier, quoi.
Tournage compliqué, et c'était beau de les voir. Donc ça aussi, c'est des petites choses, mais je pense pour le grand public, c'est des pépites qu'il faut pas négliger, hors du dessin, d'avoir un accès à des vrais objets qu'on peut presque toucher, je veux dire, de Titanic, quoi.
Justement, vous parlez de Titanic. Je trouve que dans l'exposition, le décor et l'espace en fait qui lui est consacré, ça fait un peu comme une respiration dans toute cette exposition qui est quand même très SF aussi. Je voulais savoir comment vous l'aviez conçu et est-ce que aussi c'est peut-être le reflet justement de la place de Titanic dans la filmographie de James Cameron, qui est un peu ce film un peu à part par rapport à certaines thématiques qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, c'est vrai que Titanic, c'est le seul film qui soit pas contemporain, disons, que Cameron ait fait, même s'il joue avec le futur, le présent, mais on est quand même dans une contemporanéité. C'est vrai que Titanic, c'est un film qui se passe au moment du Titanic, donc au début du XXe siècle, on est dans une autre temporalité.
D'époque, en costume.
Exactement. Ouais. Donc on s'est dit à un moment donné, d'ailleurs, est-ce qu'on le met ? Donc vous avez tout à fait bien perçu l'idée qu'on voulait, si on le traiter différemment. Et ça nous semblait très important de le traiter pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de dessins dans le film, parce que le personnage de Leonardo DiCaprio, ce qu'on oublie parfois, est un dessinateur, et que la scène de séduction avec Kate Winslet se passe par le dessin, et qu'il va ensuite la dessiner, la peindre. Et donc on s'est dit, The Art of James Cameron, on ne peut pas montrer les dessins du Titanic, qui est le seul cas où les dessins de Cameron aient été utilisés dans le film comme accessoires. Pas simplement pour la préparation, mais vraiment, on les voit à l'écran. Donc, il était évident que même si le film est à part, on ne pouvait pas se passer de ça, parce que c'est très fort pour le public et que ça rentre vraiment dans la thématique. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il a exploré l'épave du Titanic 2 ans avant le tournage. D'ailleurs, je pense que ça fait partie vraiment des motivations pour lesquelles il a fait son film. Il est un grand explorateur, il adore aller sous l'eau. Je dirais que presque même plus que peut-être l'histoire d'amour, même si elle est très puissante dans le film, l'idée que ça puisse rencontrer sa passion pour les fonds marins, l'exploration des fonds marins, est quelque chose de crucial. Or, on avait toute une partie pensée de toute façon sur les explorations, et on s'est dit, même si cette exploration de l'épave, elle n'a pas forcément donné naissance à un film en soi, parce que dans le film, il y a beaucoup de choses qui ont été recréées. Il y a quelques plans de la vraie épave, mais le reste, c'est plutôt recréer.
Il y a surtout des documentaires qu'il a pu faire par la suite.
Exactement, Ghost of the Abyss et
Alien of the Deep.
Alien of the Deep aussi. Et du coup, voilà, c'était aussi une manière de... Disons que de manière organique, ça se reconnectait très facilement à tout ce qu'on voulait raconter avant sur l'exploration et de passer de Abyss, l'exploration des fonds marins, c'est dans un contexte particulier, d'ogives nucléaires, de menaces de guerre à Titanic, nous semblait très cohérent. Et quand j'ai découvert, ils sont particulièrement beaux, les dessins qu'il a fait de mémoire de l'épave, parce que donc Cameron, il a été lui-même dans un submersible, en 95, voir l'épave, il a filmé quelques plans, mais il a surtout, en remontant, dessiné de mémoire l'épave qu'il avait vue. À l'époque, il y a très peu d'images qui existent, on vient de découvrir l'épave 10 ans avant, donc il y a très peu de sources, et en fait, il va donner ses dessins de l'épave qui sont son souvenir, mais son souvenir précis, au chef décorateur du film. Et donc, il tenait à ce que le chef décorateur, Peter Lamont, travaille vraiment à partir de quelque chose de vraisemblable, de réel. Il y a souvent ça chez Cameron, un enracinement dans la science, dans une vérité. Même quand il crée les navires, il va se renseigner sur des choses d'anatomie, anatomie animale, anatomie humaine, sur le type d'usage de bijoux dans des ethnies. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais donc, il va travailler avec Peter Lamont sur ses dessins. Donc, voilà. Après tout, Titanic me semblait très important. Et donc, il fallait absolument le mettre. On l'a traité effectivement complètement différemment en termes de luminosité. C'est un espace un peu bien à lui, c'est comme un écrin. Et ça regarde vers les Navy, ça regarde vers autre chose. Et alors ça, on peut pas l'expliciter dans une exposition, mais par exemple, les Navy regardent, enfin en termes de scénographie, ils regardent vraiment Kate Winslet. Et c'est vrai que dans Avatar 2, il y a une phrase qui est très connue, qui est « I see you », que les personnages se redisent entre eux pour se dire bonjour. Et c'est vrai que c'est une phrase qui vient de Titanic. Il a reconnu après lui-même Cameron qu'il s'en souvenait pas. Mais à un moment donné, Leonardo DiCaprio lui dit à Kate Winslet « I see you ». Et puis il y a tout le thème de l'œil. Il y a plusieurs moments de zoom ou de travelling sur l'œil de Kate Winslet qui permet de basculer du présent, enfin, ou du passé au présent, ou inversement. Et donc tout d'un coup, ça c'est un lien un petit peu délicat. Je veux dire, il n'est pas spécifié parce qu'on ne peut pas tout raconter dans une expo. Mais quelque part, le regard de Neytiri et le regard de Kate Winslet, le « I see you », permet aussi clairement de mettre Titanic en écho avec tous les autres films et pas de le voir à part totalement.
Et des dessins donc de Jack Dawson dans Titanic qu'on voit ici, qui sont ici exposés et qui sont donc dessinés de James Cameron, parce que c'est lui qui dessine notamment la scène, enfin qui dessine Rose nue sur le canapé.
Exactement, alors c'est sa main.
C'est la main de James Cameron qui dessine.
Et ça, je pense que les gens ne savent pas. Moi-même, je ne le savais pas avant. Ouais. Enfin, c'est peut-être aussi... Je ne sais pas si ça a été beaucoup dit à l'époque, mais je ne me souviens pas d'avoir lu beaucoup de choses sur le fait que... Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont interrogé à l'époque sur les dessins, ouais, sur d'où ça venait sa pratique du dessin. Et oui, ce sont ces dessins, les dessins qu'il réalise en direct et les dessins réalisés qui sont dans la pochette de Jack sont effectivement des dessins aussi réalisés et on les voit tous
qu'on
ici.
On retrouve notamment ici. Il y a quelque chose de très intéressant sur James Cameron et sur l'expo au global, c'est la notion du rêve. James Cameron dit que beaucoup de ses inspirations, beaucoup de ses idées viennent de ses rêves, qui se réveille le matin et qui va dessiner ce qu'il a rêvé la nuit, qui même je crois qu'il considère que il compare ça presque à sa propre plateforme de streaming,
ouais,
où il aurait accès lui-même à du contenu quand il dort. Bon, c'est quand même assez particulier. Mais ça a été quoi ce rapport au rêve dans la construction de l'exposition aussi?
Bah, c'est sûr que c'est quelque chose qui est très important pour lui et que beaucoup de dessins sont nés de rêves. Alors certains dessins n'ont été qu'un rêve et puis certains rêves sont devenus des films. Mais tout d'un coup, on apprend que certains films ont une origine onirique, ce qui n'était pas non plus très connu, et que le dessin est la première manière de les incarner, parce qu'on se réveille, et que tout d'un coup, si on ne veut pas perdre l'idée, plutôt que de l'écrire, et visuellement, on a envie de la représenter, c'est le dessin. On ne peut pas faire de photos, c'est un monde imaginaire, on peut rien faire de plus que le dessin. Le dessin est peut-être la meilleure moyen d'incarner ses rêves et de les immortaliser. On avait eu, entre parenthèses, il y a quelques années, une autre expo qui n'a rien à voir, mais sur Fellini, et Federico Fellini aussi rêvait, il avait publié le livre des rêves, et à partir de 8,5, il a dessiné tous ses rêves sur les conseils de son psychanalyste, et il en avait fait un énorme livre qui a été publié après sa mort, mais l'exposition montrait ses dessins, donc c'est aussi une généalogie, même si on ne le traite pas du tout dans l'expo, mais il y a d'autres cinéastes qui sont des cinéastes rêveurs, des cinéastes qui sont très connectés à leur imaginaire intérieur, pas forcément, voilà, Fellini c'est pas du tout pop culture ou Marvel culture, mais Cameron, effectivement, il y a ses rêves de super-héros, ses rêves qu'il décrit lui-même comme des sortes d'aventures, et que quand il va se coucher, il est presque excité à l'idée de savoir dans quel monde il va être projeté. Et c'est vrai que du coup, pas mal de dessins ici sont des dessins issus de ses rêves. Il y a des petits cartels qui l'expliquent. Il y en a un qui est particulièrement connu, je crois, c'est le dessin d'un cyborg sortant des flammes et qui est effectivement la première image qu'il a eue du Terminator. Donc on doit être en 81, 82, il est en Italie, il raconte qu'il était malade, qu'il a eu de la fièvre, qu'il a fait ce rêve, qu'il a eu ces images, qu'il avait même une histoire qui venait, comme souvent dans les rêves, il y a un récit un peu étrange, un peu chaotique, mais qui lui est venu avec cette image et qu'il a dessinée. Et donc c'est à partir de ce dessin et à partir de ce rêve qu'il a commencé à imaginer ce que pouvait être le scénario de Terminator, qu'il a essayé de raconter d'où vient ce cyborg, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, contre qui il se bat. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'effectivement de très riche. Et voilà, ça, c'est une des manières d'envisager Cameron rêveur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension utopiste dans son œuvre, dont on a conscience, surtout dans Avatar, de cette planète Pandora, de cette lune dans laquelle humain et nature, humain, spiritualité seraient un peu redéfinis par rapport à ce qu'on connaît sur Terre. Mais cette utopie, elle vient aussi certainement des rêves qu'il faisait et qu'il fait toujours.
On a parlé un petit peu à la fois des dessins et de ce que compose, de les œuvres que compose l'exposition. Quand vous l'imaginez en premier, quand vous la travaillez, comment est-ce que le parcours scénique, on a un petit peu parlé de la salle Titanic, se fait aussi grâce à, on a des sculptures, on a de l'éclairage qui est très important, du son, de la musique, les témoignages même de James Cameron qui viennent un peu éclaircir certaines choses. Comment on fait pour arriver justement à avoir un début et une fin un peu cohérente dans le voyage qui est proposé? Et tout en mettant en valeur toutes les pièces.
Ça, c'est un peu les secrets de fabrication d'une expo.
Comment on fait
exactement? C'est toujours un peu pareil de toute façon, c'est-à-dire que l'idée au départ, c'est voilà, qu'est-ce qu'on veut raconter, quel serait le scénario de l'expo. Donc c'est de l'ordre presque de l'écriture, de la pensée. Là, en l'occurrence, on n'est pas seul à bord pour l'imaginer, on le travaille avec la Fondation Avatar, qui ont eux-mêmes leur propre narratif. Donc essayer de faire coïncider les deux, et donc on a eu envie de, voilà, je vous ai dit un peu chronologico-thématique, je pense que c'était bien de commencer par quelque chose vraiment de la jeunesse, de l'enfance de Cameron, de montrer que c'est très enraciné, très lointain, de finir sur quelque chose de plus contemporain, un peu plus immersif, Avatar, et entre les deux, plutôt que faire un film par film, où on aurait été un peu dans un cloisonnement, de se dire après tout, faisons résonner les films entre eux selon des thèmes, et c'est intéressant de se dire après tout, est-ce que les deux Terminator et Aliens n'ont pas quelque chose en commun sur la machine? Est-ce que Aliens encore et Avatar, ou même la série qu'il a faite Dark Angel, ont quelque chose à voir sur les créatures? Donc essayer un petit peu de mélanger certains films, Abyss et Xenogenesis ou autres, et pas être toujours dans un film à film, et donc d'être plutôt thématique, et ça rejoignait la question de tout à l'heure, de dire voilà, c'est quelqu'un qui a des obsessions, il y a une structure, il y a une pensée, et ces choses-là, on les retrouve dans les films, et c'est intéressant de pouvoir les montrer. Et puis après, une fois qu'on a écrit un scénario, il y a, voilà, qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre, où sont les textes, quels sont les audiovisuels, en termes de rapport, effectivement, d'énergie, de ne pas avoir des grandes projections trop proches l'une de l'autre, d'avoir des moments de respiration, des moments à la fois de récurrence pour que le spectateur ne soit pas perdu, puis des moments de surprise, comme Titanic, où on sent qu'on change un peu les règles du jeu. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait avec la direction de la production des expos et une scénographe qui rentre en scène, qui en l'occurrence est Nathalie Crinière, l'agence NC, avec qui on a déjà beaucoup travaillé, qui fait beaucoup d'expos, mode, cinéma, à travers le monde, en France. Elle a fait la magnifique expo qui a été un énorme succès, je crois, le plus grand succès du Musée des Arts Décoratifs sur Christian Dior. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui va amener sa patte avec son graphiste, les couleurs, le traitement du sol ou pas, le traitement des luminaires. Donc, voilà, c'est un travail vraiment d'équipe et avec l'idée à chaque fois, là, pour le coup, de ne pas trahir, de ne pas décevoir la fondation de Cameron. Ce qui serait moins le cas, par exemple, si je travaillais sur un sujet plutôt patrimonial où il n'y a plus de cinéastes vivants. Bah, on a moins cette validation à faire du côté d'un artiste parce qu'il n'est pas là et que l'estate va moins gérer ce genre de choses. Donc là, c'est particulier. Il y a quand même l'idée que on avait parfois des idées, par exemple, qui leur plaisaient pas, ou que la scénographe, à un moment donné, avait une idée de quelque chose, de faire des vitrines un peu rondes, très organiques, qui pouvaient évoquer comme un peu les pseudopodes d'Abyss, quelque chose d'un peu rond. Et puis les gens de la fondation ont dit, mais non, Cameron, il est carré, c'est un géomètre, c'est un scientifique, il déteste les formes rondes, alors qu'on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose d'arrondi dans son cinéma à cause de l'eau et tout ça. Et en fait, c'était un niet ferme. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on propose, mais c'était pas, c'est normal. Et puis parfois, on adapte et on se dit, tiens, bah, c'était pas une très bonne idée. Et donc, voilà, mais c'est difficile. Voilà, ça prend, disons que ce que j'ai décrit là, prend au minimum un an et demi. C'est impossible de faire moins pour des raisons aussi légales, parce qu'on a, on doit faire des appels d'offres en tant que structure subventionnée par l'État. On peut pas engager des corps de métier comme ça qu'on n'a pas en interne. Donc, il y a des temps incompressibles légaux et puis des temps incompressibles de pensée artistique qui fait que ça serait pas possible de le faire en 3 mois et qu'il faut au moins, un an et demi, parfois c'est même 2 ans et demi, pour penser ce genre de projet. Là, ce qui était le plus simple, disons, c'est que tout vient quasiment de la même source, c'est-à-dire que tout vient de chez Cameron. Il y a une caméra qui vient de la Cinémathèque, et il y a, ça c'est important quand même, le Musée du cinéma et de la miniature de Lyon, qui ont une grande collection de pop culture, qui ont prêté donc le guerrier alien, et certains accessoires et costumes de Terminator, enfin des deux Terminator. Mais c'est rare, on a d'avoir si peu de prêteurs. Je sais pas, sur l'expo que j'ai fait sur les vampires, on a 45 prêteurs. Donc après, le temps aussi, il est long, parce qu'on sait pas qui va dire oui, qui va dire non, donc on a une liste d'œuvres qui bouge tout le temps. Et c'est comme si vous étiez en train de faire un film et que le casting changeait tout le temps et que du coup vous savez plus qui va jouer. Là, on savait dès le début qu'on aurait tout ce qu'on voulait de la fondation. Il y a quelques trucs finalement trop fragiles pour des raisons qui nous ont refusés. Mais donc il y avait une certaine, c'était compliqué comme projet pour certaines raisons que j'ai exposées, mais simple sur d'autres de par l'unicité des prêteurs.
Vous n'avez rien pu récupérer des archives Disney qui avaient récupéré, j'imagine, pas mal de choses de la Fox derrière?
En fait, non, il y a quelques éléments qui, si je ne me trompe pas, qui avaient été conservés de Titanic, mais que finalement ils avaient voulu, dont ils avaient, qu'ils ne pouvaient pas garder, je pense, pour des questions d'espace. Et donc, je pense que c'est la fondation, alors je ne sais pas si c'est légalement la fondation Cameron, mais Cameron et ses équipes qui ont récupéré récemment des choses de Titanic. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas à Disney d'autres choses, mais voilà, il y a une expo qui tourne en plus, où il y a des costumes, donc on ne pouvait pas avoir accès à certaines choses. Puis on ne voulait pas faire trop rester sur les dessins, et pas trop, sur ce qui aurait été peut-être un peu bizarre. Après, sur Avatar, c'est un peu compliqué parce que c'est une saga en cours. Et donc, ils ne veulent pas trop divulguer des choses actuelles. Donc, il y a quand même pas mal de choses parce qu'on a les bustes préparatifs. On a beaucoup, beaucoup de dessins sur les Navy. Donc, et puis, on a quelques dessins dans l'autre pièce sur Pandora. Donc, on n'est pas du tout en manque sur Avatar. Mais il y a quand même un peu un... Voilà, ils contrôlent un petit peu ces archives. Ils ne veulent pas qu'elles sortent trop. Ils ont peut-être le projet dans 10 ans de faire la grosse expo Avatar et de ne pas trop la montrer. Voilà. Donc, il y a des choses sur lesquelles... autant les dessins, quand c'est du James Cameron pur, il n'y a pas de problème. Quand ils commencent à travailler avec des gens qui sont payés par Disney et que c'est professionnel, le dessin devient en fait n'a pas le même copywriting, donc on peut plus l'emprunter de la même façon ou le montrer. Donc disons que sur Avatar c'est un peu plus compliqué, c'est pas un vrai manque, mais pour nous
il a fallu contourner
il a fallu un peu contourner.
Et juste pour compléter la question sur la création même de l'expo, concrètement quand on s'attaque à un projet comme ça, la scénographie on l'imagine comment? Est-ce qu'on se fait une maquette? Est-ce que c'est une maquette physique, virtuelle? On se dit qu'on va placer tel dessin, tel objet à tel endroit. Comment on arrive à faire cette recette-là? Ça ressemble à quoi concrètement un plan de travail sur une exposition?
Les scénographes, ils ont plusieurs outils que nous n'avons pas, mais qui sont effectivement... Alors ça commence par simplement sur papier, en 2D, d'avoir un plan avec des zones, du zoning, et puis des implantations de murs, simèse par simèse, avec la place qu'on aurait pour mettre telle ou telle œuvre. Et puis après, effectivement, de temps en temps, dans des zones un peu compliquées, ils peuvent faire des choses virtuelles, 3D, des maquettes 3D sur ordinateur qu'on peut consulter. Peut-être pas de toute l'expo, ça nécessiterait peut-être pas, mais pour certaines zones, se rendre compte...
Pour donner un peu une idée
exactement.
Du lieu.
Donc on le fait de plus en plus, ça, la 3D. Puis après, de toute façon, il y a toujours une part un peu d'improvisation. Alors pas évidemment sur les 6 mètres, tout ça, on le construit, mais tout d'un coup, ça va vraiment que l'accrochage va être comme il est ici, qu'on va aligner tel dessin, qui vont être centrés, que là... Souvent, sur les plans, on les pose un peu. Et après, en fait, on se laisse la liberté sur le chantier, sur l'installation, de le faire. Les motivations sont les mêmes, les idées sont les mêmes. Mais il y a toujours une petite chose. Enfin, je veux dire, même ça fait longtemps que je fais ça. Il y a toujours quelque chose qui échappe un petit peu dans l'espace.
La préparation.
Et tout d'un coup, il y a quelque chose. Tout d'un coup, on se dit, mais en fait, il y a une perspective qu'on n'avait pas imaginée. Et donc, il faut toujours un peu... En tout cas, faut jamais faire exactement comme on sait sur le plan. Le plan permet de vraiment anticiper, d'avoir les bonnes tailles, les bonnes simèses, mais il y a toujours les 10% d'interprétation qui sont super excitants d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne s'est pas rendu compte, une lumière, la coexistence de deux œuvres qui ne vont pas ensemble, le reflet d'une projection sur un cadre, des petites choses qui sont dures à imaginer, et qu'après tout, il faut aussi se laisser cette liberté, c'est bien. Il ne s'agit pas de tout changer, on ne peut pas, mais il s'agit d'avoir le... tout d'un coup de faire au mieux quoi.
Et tout à l'heure on parlait des obsessions de Cameron et vous avez dit que Neytiri regardait Rose et Rose regardait Neytiri. Je voulais savoir, on sait que une des obsessions aussi de Cameron, ou quelque chose, en tout cas un point commun dans sa filmographie, c'est ses héroïnes aussi, c'est la place de la femme, et même on le voit au tout début de l'exposition dans des croquis, il y a une sorte de femme nue qui sort d'une chrysalide, enfin, qui est quand même assez magnifique. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez envisagé justement ce pan-là de l'exposition, peut-être à un moment le centrer sur aussi les héroïnes, sur ces dessins-là aussi, sur les maquettes, quelles qu'elles soient, ou est-ce qu'au final, justement, ça fait partie de ces choses un peu inconscientes qu'on découvre et qui sont difficiles à expliquer finalement après dans une exposition? Quel choix a été fait finalement par rapport à ça?
On aurait pu le faire autrement, mais c'est vrai que là, on a plutôt choisi l'idée d'une sorte de fil rouge un peu sur les femmes. C'est vrai qu'on retrouve, il y aurait pu avoir une section, disons,
héroïne,
parce qu'effectivement, toutes les femmes chez Cameron, elles ont des super pouvoirs. Il y a une dimension féministe un petit peu dans son cinéma.
Complètement.
Pas militante forcément, mais en tout cas, on est sur des personnages féminins forts, que ça soit
on
Hélène
n'est pas
Ripley,
sur des archétypes,
Sarah Connor, jusqu'à Neytiri, des femmes différentes, mais évidemment, le personnage de Kate Winslet, de Rose, qui choisit de son désir, qui choisit sa vie, qui envoie balader les codes un peu stricts de la société dans laquelle elle vit. Bon, après, c'est une question là aussi de narrative de la Fondation. Je ne sais plus comment, pourquoi on n'a finalement pas fait ce choix, parce qu'il y a aussi beaucoup de propositions qu'on laisse. Mais ça nous semblait plus judicieux d'avoir ce fil rouge, effectivement, où dès le début, il y a ces figures féminines, et puis on passe Sarah Connor, et puis tout d'un coup, il y a toujours dans les extraits ces figures de femmes, jusqu'à peut-être, ça culmine ici dans cette salle juste après, où on a la fameuse scène d'affrontement de Helen Ripley avec la reine alien, où on a deux mères qui s'affrontent. C'est comme ça que lui, il avait pensé. C'est vraiment son apport par rapport à la mythologie aliens. Si on compare à Ridley Scott, on est plutôt sur un alien masculin, qu'on ne voit d'ailleurs jamais, très insidieux, qui n'est pas un personnage dont on s'intéresse à la généalogie ou à l'histoire. Lui, il décide d'imaginer une sorte de colonie d'aliens centrée autour d'une reine qui pond des œufs et qui a un instinct maternel et qui veut défendre ses œufs. Comme Helen Ripley veut défendre la petite Newt, qui n'est pas sa fille. Elle a une fille qui est morte, on l'apprend au début de Aliens 2, mais qui est la fille presque adoptive qu'elle va retrouver, sauver dans la colonie de la planète où il y a eu un cataclysme, un désastre. Et donc cet affrontement des deux mères est quelque chose d'important. Il parle d'ailleurs dans un des cartels de l'instinct maternel, de la puissance de l'instinct maternel et de ces femmes-là. Et donc on va retrouver bizarrement dans cette partie sur les créatures, autour d'Aliens, quelque chose d'une réflexion aussi sur l'instinct maternel, là où on l'attend peut-être pas. Et donc, voilà, c'est un petit peu partout à lire dans les cartels, mais le personnage de Neytiri aussi, évidemment, est un personnage crucial qui va faire basculer toute l'histoire de Avatar. Mais on ne l'a pas centré sur une thématique en particulier, mais vous avez raison, c'est quelque chose qui est présent et je pense le définit et le différencie d'autres cinéastes de blockbusters qui sont peut-être plutôt sur des super-héros masculins. Et lui, alors je sais qu'il avait envie, on a mis d'ailleurs un Spider-Man derrière, il aurait eu envie de faire un Spider-Man. J'aurais été curieux de savoir si dans Spider-Man, il aurait, voilà, un personnage féminin qu'il aurait valorisé ou créé ou inventé, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'ait pas finalement, malgré son goût pour Marvel, il n'a jamais adapté, disons, de Marvel, il n'a pas fait de Hulk ou de 4 Fantastiques ou de Thor ou je ne sais quoi, finalement effectivement il a choisi des films dans lesquels la part féminine était toujours très importante. Ouais.
Juste une petite précision, vous parlez de cartel.
Oui.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Cartel, ce sont ces petites choses que vous voyez noires et grises qui sont des légendes. C'est comme une légende dans un livre, sauf que là c'est physique, en l'occurrence ici c'est comme vous les voyez, ça pourrait être des lettres collées sur le mur, je veux dire. Mais là, c'est pas des lettres collées, c'est vraiment un objet qui est collé, qui est bilingue. Et là où c'est assez important, je pense, c'est que la plupart des cartels, parfois, sont de notre fait, d'un mode un peu analytique, mais sont aussi beaucoup la possibilité d'avoir la parole de Cameron. Parce que Cameron a été interviewé et raconte des anecdotes sur, pas chacun de ses dessins, mais on a beaucoup de Cameron qui parle, et donc c'est une manière pour le visiteur
d'accompagner
Cameron. Et il y a certains qui ont des QR codes derrière vous, par exemple. Et donc là, on a carrément la voix de Cameron. Donc on a le résumé écrit en français et en anglais, la voix on l'a que en anglais, mais on a la voix de Cameron pour le public qui l'entend, qui l'écoute. On ne pouvait pas le traduire parce que ça veut dire mettre une voix dessus, donc ça veut dire que ça perd toute l'idée d'entendre sa voix.
D'entendre James Cameron, a priori.
Et puis pour beaucoup de gens qui sont anglophones, c'est ouais. Même contre-productif. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a le résumé écrit en français, donc on ne perd personne, mais par contre on donne la possibilité ouais. D'avoir Cameron sur son téléphone, quoi.
C'était juste pour la petite précision oui. Technique.
Gaël, j'ai l'impression qu'on est l'exposition a été conçue comme si on rentrait dans la tête de James Cameron, en fait, avec encore une fois le cœur de la machine, du cerveau, j'en sais rien, qui serait peut-être Titanic.
Et tous ses rêves.
Et ses rêves, effectivement. Ça a une conséquence qui est que j'ai l'impression que son cinéma, son art, son œuvre est totalement décorrélé du monde extérieur. Est-ce que c'était un choix ? Et conscient, en tout cas ? Parce que ce que je trouve assez génial, au fond, c'est que, comme vous dites, c'est un artiste avec une vision absolument cohérente, et puis tellement cohérente que dès 77, il y a les films qu'il fait en 2024. Mais en même temps, s'il réussit à parler à autant de gens, c'est qu'il a conscience de ce qui se passe dans la société et de l'état, en fait, du monde contemporain. Et je me demandais justement si rentrer dans sa tête au point d'être décorrélé du reste, c'était pour revenir au cœur de son art, en fait.
Comme vous dites, je pense pas que l'idée du cerveau, oui, quelque part est dans sa tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dès la première salle avec ses dessins d'aliens, ce qui évoque quelque chose d'un peu organique, comme des synapses cérébraux dans lesquelles on rentrerait. Même si c'est un dessin qui évoque la planète d'aliens, on a autour de lui quelque chose qui pourrait être une matière cérébrale. Et il y a beaucoup de choses qui sont conçues pour qu'on, en termes d'écran, en termes de lumière, pour être effectivement à l'intérieur d'un processus créatif, donc un peu à l'intérieur de sa tête. Et le fait qu'il y ait sa voix écrite, parlée, va surjouer ce côté-là. Maintenant, sa tête, elle est là, mais il ne cesse de réfléchir à des choses qui lui sont extérieures. Donc je pense que c'est pas antinomique de dire que c'est à la fois dans sa tête, mais que dans sa tête, il réfléchit à des propositions, à des enjeux planétaires, historiques, et à pas mal d'endroits. Il raconte à quel point il a été influencé, d'abord par d'autres gens, des gens qu'il a connus, des mentors, des gens avec qui il a travaillé. Il rend beaucoup hommage à des collaborateurs. Donc déjà là, en ce moment, on n'est pas complètement dans sa tête. Il y a le travail avec Stan Winston sur les effets spéciaux. Il y a Roger Corman qui lui donne sa chance. Il y a dans la salle d'à côté sur Abyss, il travaille avec un artiste qui dessine tous les monstres, les bateaux, qui s'appelle Steve Burke. Donc on a quand même beaucoup de personnalités qui apparaissent. Je ne parle même pas des comédiens, évidemment, qu'on voit sur les extraits. Et puis effectivement, quand même, dans les obsessions thématiques, la peur du nucléaire, l'influence de la guerre du Vietnam, la guerre froide, la paranoïa, la destruction de la planète Terre, les questions écologiques, le Titanic est un événement qui a vraiment existé, les océans, le mystère des océans, tout ça sont des choses qui sont très réelles, tangibles. Et au contraire, c'est quelqu'un même, je dirais, qui arrive cet incroyable grand écart d'être à la fois dans un monde, dans des mondes imaginaires et à la puissance décuplée, mais aussi bien ancré sur Terre avec des problématiques et qui fait qu'effectivement, comme vous le dites, c'est certainement pour ça que les gens se sentent impliqués par les films, parce que ça pose des questions même un peu déplacées, un peu métaphorisées, mais ça pose des questions à la société, quoi. Et vraiment, on sent que c'est quelque chose qui l'habite, et c'est souvent un ressort classique de la science-fiction. Je veux dire, la science-fiction, la littérature de science-fiction, Asimov, Clarke, dont il rend hommage au début, Huxley, ce sont des auteurs qui effectivement réfléchissent au monde totalitaire, réfléchissent à la société en prenant des airs de parler d'autre chose. Ils parlent de nous, quoi. Je pense que c'est exactement pareil pour Cameron, et il revendique d'être un enfant de son temps, et on retrouve ces thèmes à l'intérieur. Après, on voulait pas en faire une expo trop savante, avec, je sais pas, trop contextualiser chaque époque, la politique américaine. On va pas refaire un topo sur la guerre du Vietnam, etc. Mais c'est sûr qu'il le dit dans les cartels, et c'est sûr que ça a une influence sur lui directement, très forte. Donc oui, les deux à la fois.
On est à la Cinémathèque française. Il y a quelque chose d'assez complémentaire dans la visite de cette expo sur James Cameron, c'est le musée Méliès. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette complémentarité et de comment le musée Méliès aussi... Je ne sais pas si vous avez travaillé sur son élaboration, oui. Comment ça s'est passé et surtout, en quoi c'est complémentaire de la visite de cette expo James Cameron ?
C'est très complémentaire parce que le musée Méliès, il est donc dédié principalement à Méliès, pionnier du cinéma... on va dire un des premiers cinéastes, si ce n'est le premier cinéaste, si on met de côté les frères Lumière qui ne se revendiquaient pas forcément comme auteur parce que faisait travailler des opérateurs. C'est vrai que Méliès, lui, signait ses films, il en était le scénariste, l'acteur, le réalisateur, le producteur, donc c'est un homme orchestre, peut-être le premier de l'histoire du cinéma. On a la plus grande archive de Méliès à la Cinémathèque. Donc en 2019-2020, on a ouvert ce musée Méliès. Il y avait un autre musée avant qui était plutôt thématique et qui n'était pas que sur Méliès. Mais on a décidé de l'axer sur Méliès en racontant à la fois sa propre vie, d'où il venait, donc le pré-cinéma, parce qu'on a aussi beaucoup d'archives du pré-cinéma, mais aussi sur ses héritiers. Ça faisait partie dès le début de réfléchir qui sont ses héritiers en France, mais qui sont ses héritiers aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, dans plein d'autres pays. Où beaucoup de gens se revendiquent de Méliès, on l'ignore parfois. Et effectivement, Méliès, c'est le père d'un cinéma onirique, d'un cinéma de l'exploration, des voyages. C'est le père des effets spéciaux. Et donc, dans l'exposition dans le musée Méliès, on a à différents moments des flash-forwards sur des cinéastes contemporains qui font des choses qui, soit en termes de motifs, soit en termes de fabrication d'effets spéciaux, disons, dialoguent avec Méliès très fortement, quoi. Donc évidemment, on pense à Scorsese, parce que Scorsese a fait Hugo Cabret, qui est un film sur Méliès, donc ça, c'est une exception.
A priori, oui.
Voilà, mais outre ça, les films de la Lune, les films de l'espace, le plus grand film qu'on connaît, évidemment, de Méliès, c'est Le Voyage dans la Lune. Et donc, on a fait toute une section à la fin sur les voyages dans la Lune, les explorations cosmiques. Ça va de Fritz Lang à George Lucas, en passant évidemment par James Cameron, dont on n'a pas de pièce originale. Donc il est cité, il est présent, il y a une boucle audiovisuelle dans laquelle il est montré. Mais on n'a pas, à la différence par exemple d'un Fritz Lang ou d'un Lucas, où là on a vraiment des dessins préparatoires au film. Donc là on monte des dessins, Cameron était présent, mais et évidemment du coup les deux dialogues, on invite le public à avoir un ticket groupé, de pouvoir à la fin de la visite aller visiter le musée, parce que ça donne une nouvelle lumière sur tout le cinéma, sur ce cinéma-là. Et comme la question des effets spéciaux elle est super présente ici, et qu'on voit déjà l'évolution qu'il y a eu entre 84 et les années 90-2000, on insiste avec le mur tactile derrière, on voit vraiment les premières images composées par des ordinateurs. Là, on imagine que si on part sur 1895, on va avoir encore un prisme encore plus grand.
Il faudrait étendre la fresque. La frise.
Et donc, c'est intéressant. Disons que la frise est complétée par le musée. Donc, tout à fait, c'est une très bonne idée si on a envie d'aller compléter la visite de l'Expo Cameron par le musée, et que Méliès et Cameron ont des points communs à plus d'un titre. Ouais.
Cameron, c'est donc en ce moment à la Cinémathèque. De combien de temps de travail ? Plus de deux ans ?
Presque deux ans, celle-là, un peu moins, mais voilà.
Est-ce qu'on pense déjà à l'après, sans pour autant citer quoi que ce soit ?
Oui, on pense toujours au futur, à la Cinémathèque. On est obligé, parce qu'il faut deux ans pour faire une expo, donc on a un programme jusque 2026-27, donc oui. Et je ne sais pas si je peux trop révéler, parce que non, je crois pas, je ne peux pas trop en parler.
Ah, mais... c'est à vous de nous dire, il n'y a aucun problème. On dira rien, on coupera les câbles du micro. Mais est-ce qu'il y a des thématiques que vous rêvez d'apporter à la Cinémathèque française, qui ne fera peut-être pas partie de celles qui arrivent là dans les prochaines années, mais que vous rêveriez un jour de monter comme expo ?
Bah, c'est difficile de vous dire comme ça, parce qu'on a eu la chance dernièrement, j'avais proposé que ce soit une expo sur les vampires ou sur les espions, qui étaient des expos qui me tenaient particulièrement à cœur, parce qu'elles étaient un peu différentes des monographies qui sont plutôt la régularité ici. Et donc de se dire, on peut à travers une figure interroger à la fois le cinéma, la société, etc., d'autres types de sujets. Donc ça a été fait un peu récemment.
Oui, parce qu'il y a des thématiques. Là, on parle des espions, voilà. Des vampires. Il y a aussi des acteurs. Il y a Louis de Funès.
Exactement.
Des réalisateurs. Fellini, ouais. Aujourd'hui Cameron. Voilà. Il y a ces différentes
donc,
branches.
Univers. Donc on a des beaux projets pour le futur, qui sont de cinéastes contemporains, de cinéastes moins contemporains, d'acteurs, d'actrices. Enfin, ça, on continue un petit peu sur la même lancée.
Et on reviendra pour en parler. Merci beaucoup, Mathieu Orléans. Vous êtes commissaire de l'exposition L'Art de James Cameron, qui est ici à la Cinémathèque française jusqu'au 5 janvier 2025, tous les jours, sauf le mardi.
Exactement.
Ici, à Paris. Merci beaucoup de votre temps.
Merci.
Merci. Merci.
Et on vous fait gagner cette semaine deux places pour visiter l'exposition James Cameron. Pour participer, c'est assez simple. Allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify avec un avis gentil sur Spotify directement dans la fiche de l'épisode du jour, et sur Apple Podcasts, sur le podcast en général. Et ensuite, vous allez sur Instagram, sur la publication du jour, du teaser du podcast publié sur l'Insta de Pathé France, et vous mettez le pseudo que vous avez utilisé pour écrire le commentaire et les petites 5 étoiles en commentaire de la publication. Et on fera un tirage au sort la semaine prochaine pour vous faire gagner les deux places à l'exposition. En tout cas, en attendant, on vous parle d'une des principales sorties de cette semaine, un film qu'on a beaucoup aimé dans l'équipe, c'est Challengers, un film à découvrir en Dolby Cinema, réalisé par Luca Guadagnino avec Zendaya, Mike Fest et Josh O'Connor.
Ça vous arrive souvent de draguer la même fille ?
Non, pas si souvent que ça.
On a des goûts différents d'habitude.
Tu veux dire que je devrais être flattée ?
Mais toi, tu plais à tous les garçons, non ?
Allez, Oli.
Mais lequel de nous deux tu...
Challengers, ça raconte quoi, Lisa ? On peut dire que c'est un triangle amoureux entre... Sur fond de tennis, avec des personnages un petit peu toxiques.
Légèrement.
On peut dire ça comme ça.
Légèrement. Non, c'est l'histoire... en fait, on suit trois personnages, incarnés par Zendaya, qui est une future championne de tennis... Et deux meilleurs amis qui sont aussi deux joueurs interprétés par Mike Feist et Josh O'Connor, et va se mettre en place dans leurs jeunes années une sorte de triangle amoureux qu'on va suivre en fait d'année en année, parce que le montage est fait que tu passes du passé au présent.
Et qui va un peu modeler leur vie professionnelle et personnelle.
Complètement, parce que, et là on dévoile rien du tout, le personnage de Zendaya, Tachi, se blesse en fait et va être propulsée en tant qu'entraîneuse d'un... Enfin, après ça, voilà. Ça reste, comment dire, difficile à expliquer, mais c'est effectivement un triangle
amoureux.
C'est un triangle amoureux sur fond de tennis. C'est un Je dirais pas un thriller érotique, mais presque, ça peut flotter avec ça.
Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus comme ça, justement, avant de découvrir le film. Je pensais que ça allait être un peu plus sulfureux.
Parce que la bande-annonce laisse un peu envisager.
Au final, ça allait pas tant, voire ça allait même pas du tout.
Et je pense que l'adjectif de toxique...
Non pas que ça soit un film à découvrir en famille, hein, attention. Mmh.
C'est pas très familial. Mais je pense que l'adjectif de toxique, en fait, est très bien employé, dans le sens où, en fait, plus qu'un triangle sulfureux, un thriller érotique ou... Ce que tu veux, c'est vraiment, en fait, qu'est-ce qu'une relation toxique ? Et quels sont les différents points de vue et les différentes manières de le montrer, que ça soit de la part d'un personnage féminin et d'un personnage masculin, en fait, des personnages masculins.
Et c'est ce qu'on se disait d'ailleurs à la fin de la projection. Chacun a presque son point de vue sur qui est le plus méchant des trois, qui est le plus toxique des trois, parce que en fait, on a l'impression qu'au fur et à mesure du film, le classement de tête n'arrête pas d'évoluer. Il y a un truc ultra intéressant, justement, sur l'évolution des personnages. Oui. Mais qui joue aussi à travers le montage, parce qu'on va peut-être se rendre compte qu'il y en a qui étaient plus méchants dans le passé, entre guillemets, donc les scènes où ils sont plus jeunes, voire les scènes que dans les scènes où ils sont plus âgés. Il y a tout un truc sur la chronologie et le rythme et le montage qui est ultra intéressant, sur l'évolution des personnages par rapport à ça. Le tout, c'est devant la caméra du réalisateur, donc de Call Me By Your Name, et qui arrive à avoir quand même une mise en scène assez original.
Mais
Gaël,
c'est intéressant parce que c'est vraiment très très éloigné de Call Me By Your Name.
Exactement, c'est ça.
Pour le coup,
il y a un montage ultra effréné, l'utilisation d'une espèce de la musique techno qui revient en permanence pour affirmer des sentiments, des sensations. Enfin, il y a quand même un truc ultra intéressant sur le montage. On pourra aussi parler des plans de caméra où on est en POV sur
oui, parce que l'autre grand intérêt du film, c'est le tennis, c'est-à-dire que c'est en fait c'est Sampras et Agassi, c'est-à-dire c'est la rivalité de deux champions qui n'ont rien à voir, un qui est dans une relation amour-haine avec son sport et l'autre qui est une espèce de machine.
Le feu
et la glace, oui, exactement. Et effectivement chapeauté par Zendaya qui est une espèce de maître marionnette.
Le chapeauté.
Film
d'animation, André.
Qui est une espèce de marionnettiste qui joue avec les sentiments, les hommes, et je trouve que c'est ça qui est intéressant.
Mais c'est là où, en fait, où le choix en fait, de situer cette histoire-là sur les cours de tennis est hyper intéressante, non seulement parce que déjà ça offre un regard sur le sport en lui-même, qui est quand même un sport très demandeur. Mais en plus de ça, il y a constamment cet échange, en fait. C'est-à-dire que le match peut complètement s'inverser selon si tu mets le point ou si tu mets pas le point. Et je pense que du coup, il y a ce parallèle en fait à faire entre la mise en scène de Guadagnino et son choix dans son scénario d'inclure ça dans un univers de tennis, en fait.
Et tu parles d'un sport demandeur. Est-ce que tu peux nous citer un sport qui n'est pas demandeur pour qu'on se mette à dos toute une
pétanque, la pétanque, la pétanque.
La pétanque. Non, quand je dis demandeur, du moins, je dirais codifié.
Les mecs qui nettoient la glace, là, tu sais, là.
Le curling.
Ouais, le curling. Voilà.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Romain travaille pour toutes les fédérations de sport de France. Mais oui, non, je vois.
Et puis, il y a une certaine tradition. C'est un sport qui est quand même codifié, en fait, le tennis. Il y a une rigueur...
Est-ce que tu peux nous citer un sport qui n'est pas codifié maintenant?
Pardon, excuse-moi. Non, mais ce qui est ultra intéressant par rapport à l'utilisation du tennis dans le film, c'est justement que c'est pas du tout gadget, en fait. Il y a un truc où le tennis est au cœur de l'intrigue et au cœur de la mise en scène. On parlait, enfin Gaël, tu parlais à l'instant des scènes qui sont justement filmées sous le court, qui sont vraiment ultra impressionnantes. Moi, je pense d'un seul coup, on a le point de vue de la balle de tennis. Ouais, alors, ça peut être un peu épileptique. Heureusement, le film n'est pas en 4DX, parce que sinon, je pense qu'il y aurait quelques soucis. Mais il y a un vrai truc de immersif, encore une fois. On parlait de James Cameron tout à l'heure. Un vrai truc immersif, viscéral, pour suivre l'évolution de ces personnages. Et je trouve que c'est aussi ça qui fait la force du film. Quoi. Moi, la scène de fin, elle est extraordinaire. La scène finale qui se passe sur un court de tennis. Voilà, pas trop surprenant par rapport à la typologie de film, mais c'est, enfin, je trouve que c'est une des plus belles scènes que j'ai vues au cinéma cette année, moi.
Non, et puis je trouve qu'il y a un effet un peu rétro-pop, en fait, qui va, je pense, peut-être séduire une certaine génération. Il y a un côté très vintage aussi dans sa mise en scène, qui moi m'a complètement séduite. Après, en plus, avoir vu Bones and All ou Call Me By Your Name, par exemple, il y a quand même un effet où on retrouve ces thématiques, notamment sur le désir, le corps en lui-même, le corps qu'il soit demandé physiquement en tant qu'activité sportive, même le corps sexuellement, ce désir-là. Donc il y a quand même cette, on va dire, cette continuité avec sa filmographie, et même sur les questions que ça pose sur l'orientation sexuelle aussi, de ce genre de choses. Et en même temps, il arrive, je trouve, Guadagnino à se réinventer en fait dans sa mise en scène, qui peut peut-être parfois sembler répétitive Je peux l'entendre, mais il y a une sorte de fraîcheur, en fait. Il apporte une fraîcheur et en plus porté par un trio, je trouve, nouvelle Hollywood, nouvelle génération d'acteurs qui est complètement flamboyante, quoi. Et Mike Face.
ce que j'allais dire, il n'a pas encore été cité, mais ouais, casting de fou. Enfin, ouais. Zendaya est fantastique et ouais. Le duo de garçons qui l'accompagnent, Mike Fest et Josh O'Connor. Sont super. Mike Fest, qu'on avait déjà vu notamment dans West Side Story récemment, qui avait commencé à Broadway, et Josh O'Connor, qu'on connaît surtout de The Crown où il joue le prince Charles dans les saisons 3 et 4.
Je trouve que c'est des. Autant Zendaya, peut-être c'est un registre dans lequel on l'a déjà vu, un peu ce côté très.
Il y a un côté euphoria,
des fois je dirais Shani dans le côté très fermé en fait d'un personnage, voir Josh O'Connor et Mike Face dans des registres assez différents des films et séries que tu citais, je trouve ça super intéressant. Je pense que, et vraiment, c'est, je sais que je suis en obsession devant ça, mais je pense que Mike Face fait partie des acteurs très très prometteurs en fait. Je trouve qu'il arrive à faire quand même une assez drôle de chose dans le film qui fait que tu arrives à l'aimer autant que le détester. C'est assez intéressant et je trouve ça rare, en fait, d'arriver à voir ce combo-là.
Quelle belle promesse, n'est-ce pas, Gaëlle? Formidable. quel engouement, en tout cas. Revenons peut-être sur les bonnes raisons, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, les bonnes raisons d'aller voir justement Challengers. On les a citées de manière assez longue. Est-ce qu'on ne pourrait pas condenser un peu ce propos et sélectionner chacun une bonne raison? Lisa, pourquoi faut-il aller voir Challengers?
Je vais pas me répéter, du coup je dirais pour la musique. Vraiment pour la musique house, pop, techno un peu, qui est assez. Qui a vraiment une place centrale en fait dans le film.
Et dans la narration du film.
Et dans la narration, carrément. Tout à fait.
Ouais, Zendaya, qui est vraiment, je trouve, aussi belle que stupéfiante dans ce rôle un peu ambigu, enfin non, carrément ambigu.
Carrément ambigu.
Et vraiment avec cette espèce de volonté de domination de ces deux mecs, elle est vraiment, vraiment fantastique.
Et moi, je parlais de la mise en scène, des choix de plans de caméra qui, pour justement immerger au mieux les spectateurs dans la violence que peut parfois y avoir dans ces matchs de tennis là, promet des angles de caméra absolument fous, des montages de dingue. Il y a cette scène de fin, mais il y a beaucoup d'autres plans et matchs de tennis pendant tout le film. Et je trouve que ça donne un cachet assez dingue au film. Cette semaine, c'est aussi la sortie de Back to Black. Le biopic sur Amy Winehouse. Dans l'actualité des cinémas pâtés dans les semaines à venir, le 4 mai, ce sera la ressortie de Star Wars, la menace fantôme, dans le cadre des séances cinéhit à l'occasion des 25 ans de la sortie du film au cinéma. Et aussi, à mentionner, le 4 mai, du 4 au 5 mai, un marathon Star Wars avec les 9 films de la saga à découvrir d'affilée au cinéma. Ça sera dans 3 cinémas pâtés en France. Pâté plein de campagne, dans quelle ville?
Bien sûr, Marseille. Ben. Alors, pas vraiment, d'ailleurs.
Je m'attendais à Lens.
Les peines Mirabeau, Cabriès, Calas, mais bon, oula, on va dire... On va dire que c'est Marseille.
Pagnol. Bref, qui vient de prendre possession du corps de Robin. Au pâté Rennes également. Un mot sur Rennes, peut-être, Gaël?
Non, super. C'est mon cinéma fétiche quand je retourne à la maison.
Mais et ben voilà. Et enfin, au pâté Bellecour à Lyon. Peut-être un avis, Lisa.
Je suis pas lyonnaise, désolée.
Voilà, dommage, malheureusement. Si
on peut demander à Thierry Frémaux.
On peut demander. Oui. Tu le vois là autour de la pièce? Tu es autour de la table?
Thierry?
Il n'est pas là.
Il doit préparer sa sélection.
Je pense qu'il prépare sa sélection, en effet. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour rencontrer le commissaire d'expo sur James Cameron, parler de Challengers. Merci Robin.
Merci beaucoup Alexis.
Merci Gaël.
Merci Alexis.
Et merci Lisa.
Merci beaucoup.
Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Merci.